Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle économique de ces plateformes aujourd'hui est appuyé principalement sur notre consommation. Donc plus cette consommation est en plus massive et accélérée, voilà, forcément, ça va engager davantage la plateforme, ça va permettre d'avoir plus de revenus. Bon. Cela étant dit, par différents moyens, comme la pub, par exemple. Cela étant dit, il est bien évident que tout ce qui est contenu, transgressif, polémique, haineux va être davantage partagé. Donc ce qu'il faut, c'est d'une part revoir l'algorithme de suggestion de contenu qui ne va pas suggérer que à partir de la consommation sur des temps courts et massivement.
Je vous arrête. Non, qui va revoir, qui doit revoir cet algorithme ?
Les propriétaires.
Via des modérateurs ?
Non, pardon. Prenons Twitter.
Oui.
Twitter doit reprendre ses algorithmes. Vous savez, il y a plein d'algorithmes qui tournent, tous ne sont pas mauvais. Il faut pas du tout. Il faut qu'ils revoient leur algorithme de suggestion de contenu. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils revoient leur modèle économique.
Pardon. Parce qu'on nous suggère spontanément, ou plutôt à la suite d'une série d'équations, des choses avec lesquelles nous sommes déjà d'accord. On alimente notre bulle cognitive, notre bulle d'opinion. Et donc nos détestations.
En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part ce que vous avez dit, à savoir la bulle, c'est-à-dire qu'on est catégorisé en fonction de la similarité statistique de nos comportements qui va être d'aimer un contenu, de le partager, de le commenter, les gens qu'on suit, les gens qui vont nous suivre. On est dans des classes et on va utiliser...
On ne nous soumet que ce qui ressemble
à ce qu'on détermine. Il y a ça, premièrement. Mais il y a deuxièmement, où vous pouvez être amené, Claude, à voir des contenus dans lesquels vous n'adhérez pas du tout, mais qui vont vous énerver et vous allez pouvoir commenter. Mm-hmm. Et ça, c'est une deuxième partie de l'algorithme de suggestion qui est, lui, basé sur la consommation effrénée.
Sur la radicalité.
Voilà.
On
sait que la radicalité, on sait que les contenus transgressifs polémiques font débat. Et quelqu'un l'a très bien dit dans les extraits. C'est ce qu'on voit dans la société. Ce n'est juste qu'un révélateur multiplié par 10 000 de ce qui se passe
dans
la
vraie
vie.
Et quand vous dites Twitter serait forcé de revoir son modèle économique, ça veut dire que ce serait moins rentable?
Non, ça veut dire qu'il faut être rentable.
Plus d'éthique ou plus de vertu serait tout aussi rentable.
Voilà, il faut. Ils ont quand même des revenus de l'ordre de budget étatique, donc ça va, ils vont bien. Enfin, c'est pas. Je pense qu'il faut revoir le modèle économique. Et vous savez, parfois faire moins d'argent, mais le faire mieux et d'avoir une pérennité et de minimiser son risque réputationnel, c'est aussi une stratégie à long terme.
Quand Trump est censuré par Facebook, Facebook se pose comme un contre-pouvoir, mais c'est une entreprise.
Alors moi c'est marrant parce que
qu'est-ce que ça vous inspire ?
J'ai pas du tout réagi de la même manière que tout le monde. J'étais à Los Angeles quand ça s'est passé, donc on regardait ça en direct à la télé. Premièrement, Trump est un utilisateur comme les autres sur Twitter, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est soumis aux conditions générales d'utilisation et dans les conditions générales d'utilisation, il est dit que Twitter peut vous bloquer à tout moment. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, il y a eu beaucoup d'hypocrisie sur tout ce qui a été dit à l'issue de cette décision de la part du Twitter, parce que pendant très longtemps, on n'a pas arrêté de dire que Twitter ne prenait pas ses responsabilités, Twitter n'agissait pas, Twitter ne fait rien. Et pour une fois que Twitter considère Trump comme un utilisateur lambda, on lui tape dessus. Alors après,
il y avait une hypocrisie fantastique.
Bien évidemment.
Trump a fabriqué Twitter qui a fabriqué Trump, et un jour, ils ont dit stop.
Et d'ailleurs, Claude, ils ont dit stop. Un mois avant qu'il quitte la Maison Blanche. Donc c'est moins d'un mois, puisqu'en fait il est parti. Donc c'était le 6 janvier, Biden est arrivé le 22 janvier. Donc voilà, c'était 20 ou 22 janvier. Donc c'était. Il prenait pas de risque, vous voyez ce que je veux dire, vis-à-vis du pouvoir américain et voilà, du pouvoir exécutif. Donc, mais en tout cas, il y a eu d'hypocrisie un peu partout, c'est ça que je veux dire en fait.
Claude.
Mais est-ce que cette hypocrisie montre qu'à un moment donné, on ne pourra pas se contenter de solutions techniques, d'expertise, d'intelligence, de modération, mais qu'il faudra faire des choix politiques, décider politiquement de bloquer la puissance de ces entités ?
Vous avez raison, c'est une décision politique. Il y a de la technologie, mais la technologie ne peut pas tout. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis persuadée que ces acteurs-là, Twitter, Facebook, tout ça, souhaitent être régulés. Ils ont voulu être régulés sur les données à caractère personnel parce qu'ils se rendaient bien compte en fait qu'il fallait vraiment que ce soit fait et que qui allait le faire, et donc c'est la régulation par l'État. Et concernant aujourd'hui ce qui se passe avec les algorithmes, moi je pense que de bien faire ces algorithmes, de bien les tester, de bien les développer, c'est un différenciateur économique. Cela étant dit, aujourd'hui il y a tellement des enjeux économiques puissants de la part de ces acteurs que le premier qui va faire un pas va peut-être perdre de l'argent au début. Du coup, ils attendent que tout le monde soit mis au pied d'égalité à travers une régulation de l'État.
Aux États-Unis, il était question de démantèlement. Ces acteurs, c'est impossible.
Non, je pense que c'est possible parce qu'en fait, il y a le droit à la concurrence aux États-Unis qui a déjà agi pour éviter, par exemple, des fusions. Pas dans le cas des GAFAM, d'autres choses, que ce soit dans les télécommunications.
Mais dans le cas des GAFAM.
Je pense que c'est possible. Enfin, moi, ça me paraît pas. Ça me paraîtrait pas. Alors ça, c'est une vision économique pour le coup. C'est une vision économique parce que c'est un monopole face à des plus petits acteurs. Et je serais pas étonnée un jour que ce soit abordé parce que ça paraît aussi légitime. le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir de l'innovation. C'est-à-dire que quand vous avez des gros acteurs, en fait, on ne peut pas innover quand on est énorme, comparé à des plus petits. Voilà.
Vous êtes une petite actrice.
Moi, je suis
vous.
Petite, moi.
Toute petite voilà. Actrice, entrepreneuse.
Je pense qu'il faut plus de pragmatisme. Si on devait vérifier chaque algorithme qui est développé aujourd'hui, honnêtement, je préfère qu'on mette l'argent dans la recherche sur l'intelligence artificielle en Europe, que de payer des gens à contrôler. Je pense que ce qui est plus intelligent, si je puis me permettre, Thomas, ce qu'il faut faire, pour être pratique, c'est qu'il faut avoir des régulations qui imposent aux acteurs d'avoir des bonnes pratiques de développement et de tests et d'usage et de déploiement de ces algorithmes et de tests une fois que les algorithmes sont parfois utilisés par des dizaines de millions d'utilisateurs. Et s'il y a un scandale, comme une erreur, les erreurs que vous avez très bien expliquées au début, à ce moment-là, on fait un audit externe, on vérifie si la société en question développe bien ses algorithmes, mais si elle ne le fait pas, elle a une amende sévère, comme dans le cas du RGPD qui monte jusqu'à 3% du chiffre d'affaires, plus l'obligation de se mettre en conformité selon un temps raisonnable. Et surtout, la transparence des algorithmes, moi, je ne la défends pas du tout, et j'en parle dans le livre, parce que si on demande à tous les acteurs de publier leurs algos, premièrement, d'un point de vue scientifique et technique, ça va aider un peu, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est expliquer. Expliquer, ça veut dire appliquer des calculs mathématiques d'explicabilité sur ces algorithmes pour aller extraire la logique de fonctionnement.
Et ça, d'accord, de manière très limpide voilà. Pour alors, le tout expliquer. Venant que nous sommes.
Mais c'est hyper important, parce que les algorithmes, ils ont une logique. On peut l'extraire statistiquement. Pour ça, il faut le faire avant de les développer. Donc, on le fait sur les jeux de données. Ouais. On le fait pendant le calcul et on les fait une fois qu'ils sont utilisés. Si on ne fait que rendre transparents les algorithmes, on ne pourra appliquer que les méthodes post-entraînement. Donc, on va rater toute une partie de la responsabilité.